Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chaque année, mes frères, nos cœurs tressaillent de joie en voyant arriver ce dernier dimanche d'octobre où nous fêtons depuis 1925 la solennité du Christ-Roi. Et cette joie est tout particulièrement rayonnante de reconnaissance, de fierté et d'espérance. De reconnaissance parce que, comme vient de nous le dire saint Paul, Dieu nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ce bienfait est tellement grand que saint Paul pousse une sorte de cri de gratitude. « Frères, nous rendons grâce à Dieu le Père. » Notre joie est aussi pénétrée de fierté parce que, comme le souligne la post-communion, il est très glorieux de militer sous un tel étendard. Quel chef militaire, quel chef politique ou idéologique peut rivaliser d'éclat avec le Christ-Roi ? Enfin, notre joie a la couleur de l'espérance, parce que même dans l'immense détresse des jours présents, nous sommes certains de la victoire. Nous l'avons chanté dans le verset de l'Alléluia. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Son royaume est perpétuel et ne sera jamais détruit. Comme les catholiques mexicains qui, il y a près d'un siècle, aimaient à crier « Vive le Christ roi !» avant d'être fusillés par les troupes du franc-maçon Calès. De même, nous faisons de ce titre notre signe de ralliement dans la crise qui secoue actuellement la Sainte Église et dans le combat contre la déchristianisation moderne. C'est ce que dit l'hymne que nous chanterons à Vêpres. « Celesta turba clamitat regnare Christum nolumus, teno sovantes omnium regem supremum dicimus. » La foule des révoltés hurle sa haine. Nous ne voulons pas que le Christ règne. Mais nos acclamations répondent « Le Christ est roi de tous les hommes. » Mais ce titre de Christ roi que nous aimons tant à invoquer, à chanter et à brandir comme notre drapeau est en réalité une sorte de pléonasme, un peu semblable aux expressions « sortir dehors » ou bien « monter en haut » qui répète une deuxième fois la même idée avec un mot différent pour être sûr d'être bien comprise. Et c'est ce que nous explique la magnifique préface du Christ-Roi que le prêtre chantera dans quelques instants avant le canon de la messe et que je vous encourage à suivre très attentivement dans votre misselle. En fait, elle se contente de développer ce que signifie le mot « Christ » dont nous désignons très habituellement le Seigneur Jésus. Le Christ, que signifie ce mot? Évidemment, tous les chrétiens devraient le savoir, c'est le béaba du christianisme. Et pourtant, si tout à coup, au bureau ou au marché, on vous demandait « Mais au fait, pourquoi appelle-t-on Jésus le Christ ? D'où vient ce nom ? Que signifie-t-il » Sauriez-vous donner une réponse très complète? Sans doute, vous saurez lui dire qu'en grec, ce mot désigne celui qui a été oint, qui a reçu sur la tête une onction d'huile. Mais vous ne pourriez lui fournir une explication plus complète qu'en lui lisant le texte de cette préface du Christ-Roi. Il est vraiment juste et nécessaire. C'est notre devoir et c'est notre salut de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui avez oint de l'huile d'allégresse, votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre éternel et roi de l'univers, afin que, s'offrant lui-même sur l'autel de la croix, victime pacifique et sans tache, il accomplisse le mystère de la rédemption de l'humanité et, après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, remette à votre majesté infinie un royaume universel et éternel, royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Et vous voyez tout de suite, mes frères, que le mot « Christ » a bien la signification de « roi ». Jésus est appelé « Christ », c'est-à-dire « oint », parce qu'il a l'onction royale. Mais vous voyez en même temps que le mot « Christ » est plus large. Jésus a reçu une onction qui, tout à la fois, le rendait prêtre et roi. Et il faut bien comprendre qu'en lui, ce ne sont pas deux titres différents qui s'additionnent, comme par exemple dans le personnage de Melchisédek, qui d'un côté était roi de Salem et qui, en plus, d'un autre côté, était prêtre du Très-Haut, mais qui aurait pu, à la rigueur, être l'un sans l'autre. Non, notre Seigneur a reçu une unique onction qui est tout à la fois royale et sacerdotale, parce que sa mission unit indissociablement ces deux aspects. Et quelle est donc cette mission de notre Sauveur? Eh bien, c'est celle qu'explique la préface. Et on peut d'un côté la décrire comme la mission d'un prêtre, un sacrificateur, parce que Jésus offre un sacrifice parfait en s'offrant lui-même sur l'autel de la croix comme victime pacifique et sans tâche. Mais pourquoi s'offre-t-il ainsi? Il s'offre au nom de l'humanité pour accomplir sa rédemption, c'est-à-dire sa délivrance. Et par le fait même, il accomplit l'œuvre d'un conquérant, l'œuvre d'un roi, et le plus grand des rois que la terre ait jamais porté, car son royaume s'étend sur tous les continents et sur tous les siècles. Jésus libère toute l'humanité. Il soumet à son pouvoir toutes les créatures. Mais cet acte royal est encore un acte sacerdotal, car il ne conquiert pas ce royaume pour lui, mais pour l'offrir à son Père. C'est encore ce que souligne la préface. Après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il les remet à votre majesté infinie, dans un royaume universel et éternel. Ici, évidemment, se pose la grande question qui est d'où vient cette onction de notre Seigneur Jésus-Christ? On vient de voir qu'il a accompli la mission de grand prêtre et de grand roi. Mais qui lui en donnait le titre? Quand a-t-il reçu cette onction qu'il consacrait pour cela? Et quelle est cette huile d'allégresse dont parle la préface? En effet, il suffit d'ouvrir l'Ancien Testament pour constater que les prêtres d'Aaron, d'un côté, les rois de l'autre, étaient consacrés par une onction d'huile. On retrouve d'ailleurs ce rite dans le Nouveau Testament. Mais rien n'indique dans l'Évangile que Jésus ait reçu ce genre d'onction. Il a bien reçu la circoncision le 8e jour, il a été présenté au Temple le 40e jour, il est monté au Temple de Jérusalem pour ses 12 ans, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, mais il n'y a dans l'Évangile aucune mention d'une onction d'huile. Pourquoi donc Jésus est-il appelé le Christ dès l'origine, et notamment par les apôtres? Eh bien, là encore, la préface donne la réponse. Jésus a été oint non par les hommes, mais par son Père. Et cette onction, qui le consacrait en même temps prêtre et roi, n'était rien d'autre que ce que l'on appelle, en langage théologique, l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union en une seule personne, de la nature divine avec la nature humaine. Dès sa conception, Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. et cela seul le constitue grand prêtre, c'est-à-dire grand médiateur entre Dieu et les hommes. Quelqu'un qui est à la fois Dieu et homme est évidemment qualifié par le fait même pour être médiateur entre les deux. Et en même temps, il est institué grand roi, puisque un homme qui est en même temps le Créateur ne peut être autre chose que le Seigneur de tous les autres hommes. Et comme le souligne saint Paul dans son épître, c'est par lui et pour lui que tout a été fait. Enfin, cette belle préface souligne les caractéristiques du royaume du Christ. Ce royaume qu'il est venu inaugurer sur cette terre, mais qui n'est pas de cette terre et qui n'aura toute sa splendeur qu'au ciel, ce royaume est un royaume de vérité et de vie, parce que nous sommes libérés des ténèbres de la mort, le péché. C'est un royaume de sainteté et de grâce, comme le prouve l'immense cohorte des saints qui ont déjà germé sur cette terre grâce au sang de Jésus et qui ont déjà rejoint le ciel et que nous fêterons ce jeudi. Car ce n'est pas par hasard que le pape Pie XI a voulu placer la fête du Christ-Roi juste avant la Toussaint. Il a voulu montrer le lien entre les deux. Il fête le roi avant de fêter le royaume. Enfin, c'est un royaume de justice, d'amour et de paix. Une justice, un amour et une paix qui règnent d'abord à l'intérieur des âmes, mais qui, dans les périodes de chrétienté, s'étendent aussi à la société, comme on a pu le voir lorsque le christianisme a aboli l'esclavage, supprimé l'infanticide, restauré l'harmonie de la famille, multiplié les hôpitaux et les hospices, et tellement mis le pauvre à l'honneur qu'on voyait des rois comme saint Louis tenir à cœur de les servir régulièrement à table et de leur laver les pieds. Bien sûr, ici-bas, l'ivraie reste toujours mêlée au bon grain. Le royaume de justice, d'amour et de paix n'aura sa perfection que dans l'éternité. Mais il suffit de comparer la France de saint Louis avec la République maçonnique d'aujourd'hui pour mesurer ce que les hommes ont perdu, même au point de vue temporel, en rejetant le règne du Christ. Comme le disait le cardinal Pie, lorsque Jésus ne règne pas par les bienfaits attachés à sa présence, il règne par les calamités inséparables de son absence. Profitons donc de cette fête, mes bien chers frères, pour davantage vivre cette demande du Notre Père, que votre règne arrive. En demandant cela, nous demandons au bon Dieu le royaume perpétuel, le royaume du ciel, bien sûr, mais nous demandons aussi, dès maintenant, une extension du règne du Christ sur cette terre, justement pour pouvoir faire atteindre par les hommes le royaume du ciel. Car si les dégâts temporels du laïcisme sont visibles aux yeux de tous, les dégâts éternels sont encore pires, puisqu'on peut dire que, alors que la chrétienté est organisée pour sauver le maximum d'âmes, les régimes actuels sont organisés pour assurer la perte et la damnation éternelle du plus d'âmes possible. Aussi, au moins dans nos cœurs, essayons de faire régner notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ferveur, répétons cette demande. Que votre règne arrive. Travaillons d'abord pour qu'il règne en nous-mêmes. Essayons autant que possible de le faire régner là où nous avons une influence, notamment dans notre famille et là où nous avons des responsabilités sociales. Et puis, par la prière, demandons sans nous lasser que les bienfaits du règne de notre Seigneur, règne de vérité, de vie, de sainteté, de grâce, de justice, d'amour et de paix, soit rendu à notre pays, la France. Et nous pouvons aussi, bien sûr, le demander à la très sainte Vierge Marie, reine de France. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.